1er juillet prochain, notre invité prendra la tête du Conseil de l'Agence Spatiale Européenne. Il est déjà président du Centre National d'Études Spatiales, le CNES, depuis 4 ans. Il est également président de l'IAF, la Fédération Internationale d'Astronautique, qui est une sorte d'ONU de l'espace. Bref, Jean-Yves Le Gall est la personne idéale pour commenter les décisions stratégiques dans la course à l'espace, en France, en Europe et dans le monde. Quels sont les principaux défis à relever pour les agences étatiques face à la montée en puissance des acteurs privés? Que faire de l'ISS? Lui faut-il un successeur? Objectif Lune ou objectif Mars? C'est une richeur de plongée dans l'espace qui s'ouvre devant nous. Jean-Yves Le Gall est notre invité pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Jean-Yves Le Gall.
Bonjour.
Mille merci d'avoir accepté notre invitation. L'heure qui s'ouvre devant nous ne sera pas de trop pour évoquer tous les sujets que je viens d'aborder et bien d'autres, comme le chantier d'Ariane 6 et ses moteurs low cost, la concurrence spatiale des pays émergents, le récent chantier des nanosatellites, l'impulsion programmatique de notre nouveau chef de l'État en matière d'espace, puisqu'il vient d'arriver au pouvoir, donc peut-être a-t-il lui-même des ambitions. Nous allons évoquer tous ces sujets-là, mais avant cela, pour commencer, je le disais dans l'introduction, président du CNES, futur président du Conseil de l'ESA, président de l'IAF, et j'oublie volontairement quelques autres fonctions. Tout cela à partir d'une thèse d'optique passée en 1983 à l'Université Paris-Sud. Vous avez immédiatement plongé dans l'astronomie, d'abord au CNRS, puis à l'ESA, où vous avez travaillé très jeune sur le projet Hipparcos notamment. D'où vous vient, Jean-Yves Le Gall, cette vocation spatiale ?
Vous savez, je ne sais pas si c'est une vocation, mais comme la plupart des gens de ma génération, moi j'avais 10 ans quand on a marché sur la Lune, à l'époque, me semble-t-il, vous demandiez à la plupart des enfants dans le monde entier, parce que le débarquement lunaire, ça a été suivi probablement pour la première fois au niveau mondial, eh bien, tout le monde voulait être cosmonaute. Alors ensuite, à la faveur des destins individuels, de ce qu'on peut faire, moi l'espace m'a toujours fasciné, parce que quand on voit décoller une fusée, quand on voit des images de mondes inconnus, quand on a vu l'arrivée de Rosetta sur le noyau de la comète Churyumov-Gerasimenko, des choses comme ça, c'est absolument extraordinaire. Et donc j'ai décidé de rester dans l'espace.
Alors vous allez prendre au 1er juillet la présidence du Conseil de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, l'ESA qui a son propre directeur, Yann Werner. En quoi consiste exactement ce poste de président de conseil? Quelle est la différence?
Vous savez, l'ESA, c'est une institution où il y a 22 États membres, et donc il faut faire fonctionner le Conseil, c'est-à-dire il faut arriver à faire dégager des consensus, et c'est pour cela que la plupart des États membres ont souhaité que ce soit un Français qui préside le Conseil pour les années qui viennent, parce que la France est le premier État de l'Agence Spatiale Européenne, le premier contributeur, et la France l'a montré au cours de la période écoulée à une capacité à fabriquer du consensus, parce qu'aujourd'hui, la seule méthode qui vaille, c'est le dialogue, c'est être convaincu que l'Agence Spatiale Européenne s'est forcément construit autour d'une colonne vertébrale qui est franco-allemande, à laquelle, bien sûr, ensuite s'agrège l'Italie, le Royaume-Uni, puisque l'ESA est en dehors de la Commission, donc n'est pas touchée par le Brexit, les autres États membres, mais la France a vraiment cet ADN autour de la médiation, de la construction du consensus, et c'est et le travail qui m'attend pour les années qui viennent.
Alors commençons par là. Quels sont les premiers chantiers que vous, Jean-Yves Le Gall, avez envie d'impulser à la tête de ce conseil de l'ESA?
Vous savez, il y a toujours des chantiers. L'ESA, les décisions se prennent tous les 2 ou 3 ans à la faveur des conférences ministérielles. Donc on en a eu une au mois de décembre ensuite, à Lucerne, qui a été un très grand succès, puisque ce n'est pas évident, mais on a réussi à lever 10,3 milliards d'euros pour les années qui viennent sur les lanceurs, sur ExoMars, sur la poursuite de la station, sur la R&T. Et donc, les chantiers que nous avons devant nous, c'est continuer à être la deuxième puissance spatiale mondiale au niveau de l'Europe, et avec, faut-il le préciser, une économie de moyens remarquable. Nous faisons, dans de nombreux domaines, aussi bien, voire mieux que les Américains, avec un budget global du spatial en Europe qui est à peu près 5 à 6 fois inférieur, mais parce que nous sommes beaucoup plus efficaces et donc il faut continuer.
C'est compliqué aujourd'hui, justement, dans un contexte budgétaire où on sait que de nombreux pays européens sont frappés par l'austérité et que quand on cherche à réduire des budgets, eh bien, on se dit oh, finalement la course à l'espace, ça n'est pas nécessairement une priorité nationale comparée à d'autres postes budgétaires comme, je ne sais pas, l'éducation, la justice, la sécurité.
C'est compliqué, mais en même temps, il faut reconnaître que la plupart des politiques ont bien compris que le spatial, c'est un formidable moteur de développement technologique. Ça tire tout le reste vers le haut parce qu'il y a de l'innovation. Et aujourd'hui, on voit bien que l'avenir de l'espace est de l'innovation. C'est-à-dire, on passe notre temps à inventer, le CNES en a fait son slogan d'ailleurs, inventer l'espace de demain, mais à inventer ce qui va se réaliser dans le spatial demain. Donc, il faut innover. Et à partir de là, il peut y avoir des applications un peu partout. Donc ça, c'est l'innovation. Deuxième volet, ce sont les applications. Le spatial a fait totalement irruption dans notre vie quotidienne. Et dans le monde qui se dessine, dans le monde connecté qui se dessine, finalement, il y a deux enjeux qui sont connectés. C'est-à-dire aujourd'hui, sur 6 milliards d'habitants sur la planète, il y en a seulement moins de 2 qui ont accès à Internet rapide. Eh bien, il faut connecter les 4 milliards d'autres parce que ça a des retombées dans la vie quotidienne aujourd'hui. Dans un pays développé comme la France, on ne sait pas vivre sans Internet. Eh bien, le monde entier a besoin d'Internet. Et le deuxième enjeu, c'est observer. Parce qu'on parle beaucoup de la voiture sans chauffeur, des choses comme ça. Mais pour cela, il faut avoir des cartes de la Terre actualisées en quasi-temps réel. Parce que vous ne pouvez pas envoyer une voiture sur une route qui n'existe plus ou qui n'existe pas encore. Et pour répondre à ces questions, eh bien, les satellites sont absolument indispensables.
Vous avez notamment, alors vous allez me dire que c'est peut-être peu significatif, mais je trouve que ça l'est tout de même. Vous avez notamment nommé 2 vice-présidentes, le milieu de l'aérospatial est un milieu très très masculin encore, c'était important.
C'est un milieu masculin et c'est pour ça que vous avez signalé que je suis aussi président de l'IAF. J'ai mis en place, lorsqu'on est élu président de l'IAF, donc comme vous l'avez dit, c'est Fédération Internationale de l'Astronautique, 66 États membres, de multiples organisations. On met en place un agenda pour les 3 années qui viennent. Et moi, l'agenda que j'ai choisi, c'est 3G pour Generation. Donc, je veux rajeunir les cadres parce que c'est très, très bien qu'il y ait des gens qui ont un passé brillant à l'IAF. Mais c'est encore mieux si on a des gens qui ont un futur à construire. Donc, Generation. Deuxième enjeu, géographie, parce que je veux avoir des gens du monde entier. Et troisième enjeu, gender, parce qu'il n'y a pas assez de femmes. Et donc, nous l'avons fait au CNES. Donc, nous avons un comité exécutif qui se féminise. À Toulouse, aujourd'hui, nous avons, ça n'avait jamais existé par le passé, nous avons 2 directrices au Centre Spatial de Toulouse, 2 femmes, et donc à l'ESA, eh bien, il y a 2 vice-présidentes, une britannique et une polonaise. Je suis convaincu, et d'ailleurs on le voit dans la vie politique, j'observe avec bonheur que le gouvernement est constitué sur une base paritaire. Mais je suis convaincu que s'il n'y a pas une volonté politique venue du plus haut niveau, ce problème de féminisation, qui n'est que quelque chose de normal, mais ce problème reste un problème. Il y a toujours de bons esprits pour vous expliquer que oui, on ne trouve pas, c'est mieux. Ainsi de... Non, il faut le faire, c'est pas de la discrimination positive, c'est parce que il faut que nos organisations, eh bien, aient une structure qui soit le reflet de la société. Et la société, jusqu'à plus en plein formé, il y a autant de femmes que d'hommes. Donc, il faut que nos organisations...
Voir un peu plus.
C'est 51%, oui, bien sûr. Mais parce que probablement les hommes sont plus imprudents que les femmes et donc meurent plus tôt. Mais voilà, donc, et c'est pour ça qu'il faut vraiment l'impulser.
Comment l'ESA se positionne-t-elle vis-à-vis des agences émergentes dont pense à l'Inde, évidemment, à la Chine qui a investi massivement récemment dans des programmes spatiaux d'envergure.
Si vous voulez, la politique qu'on a en Europe, on a 2 volets. On a un volet pour tout ce qui est développement des infrastructures, et ça, c'est le volet de l'Agence spatiale européenne. Et donc, le CNES met à peu près la moitié de son budget dans ce volet-là. C'est le développement des lanceurs, programmes scientifiques, la participation à l'exploration, l'observation de la Terre.
Ce dont on va parler dans quelques instants, d'ailleurs.
Et puis, on a un deuxième volet sur la politique internationale, et où là, c'est plus, je dirais... l'apanage des États que de l'Agence spatiale européenne, parce que l'Agence spatiale européenne, quand on fait une coopération avec quelques pays que ce soit, il faut l'accord des 22 États membres, ce qui parfois est compliqué, alors que quand on est seul, eh bien, c'est plus facile. Alors, l'ESA, bien sûr, est membre du plus grand projet de coopération technologique civile aujourd'hui, qui est la station spatiale à bord de laquelle Thomas Pesquet est en train de terminer son séjour. C'est considérable, c'est un projet de 100 milliards de dollars. Et l'ESA est le deuxième partenaire de la station avec derrière les États-Unis, avec la Russie, le Japon et le Canada. Mais au niveau des coopérations, notamment avec les émergents, la France joue un rôle tout à fait important, et en particulier on a des coopérations très spectaculaire avec la Chine, avec l'Inde et aussi avec nombre d'autres pays émergents qui commencent à faire du spatial.
Il y a encore des domaines vraiment réservés. On voit que dans le domaine spatial, pas seulement pour la station spatiale, mais la plupart des grands projets sont des projets qui se font en collaboration entre les différentes agences nationales ou internationales. Aujourd'hui, quels seraient les domaines réservés de l'ESA? Je pense à Galileo par exemple. Et encore,
il y a des domaines où il y a des questions de souveraineté. Galileo, c'est typiquement une question de souveraineté.
Galileo qui est, il faut le rappeler...
Le système, c'est le GPS européen. Et si tout va bien, on dira dans quelques années que le GPS, c'est le Galileo américain. c'est peut-être ambitieux, mais je crois que c'est important d'être ambitieux. Mais donc Galileo, c'est un instrument de souveraineté parce qu'on ne veut plus dépendre des États-Unis pour tout ce qui est géolocalisation. De même que pour les lanceurs, l'ESA développe un programme de lanceurs parce qu'on ne veut dépendre de personne si on n'a pas d'accès à l'espace autonome. Il n'y a pas de programme spatial, c'est évident. Mais sur des choses, le climat, l'astronomie, des choses comme ça, voire l'innovation, on peut faire des coopérations internationales.
Alors, parlons des grands chantiers qui sont en cours, que vous avez cités, Jean-Yves Le Gall. Il y a la mission ExoMars, dont on parlera tout à l'heure, le chantier d'Ariane 6, dont on va parler également, puisque vous venez de l'évoquer, la poursuite du financement de la station spatiale internationale jusqu'en 2024. Alors, justement, cette station spatiale internationale, il n'y a pas de doute que c'est une réussite autant au point de vue de la collaboration entre les différentes agences spatiales, les différents pays, que pour la durée et le prolongement de la durée de sa mission. On voit que Thomas Pesquet y est aujourd'hui et que c'est là aussi un grand succès en termes de communication. On entend aussi dire que finalement, c'est un laboratoire qui coûte très très cher pour une science qu'on fait finalement de moins en moins intéressante, c'est-à-dire qu'on y a déjà fait à peu près tout ce qu'on devait y faire. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à abonder en milliards de dollars ou en milliards d'euros cette station spatiale internationale jusqu'en 2024?
Aujourd'hui, l'essentiel des dépenses est de très très loin, est derrière nous, puisque la station a été décidée à la fin des années 80, premier lancement en 2000, et puis on voit que la station a été terminée au début de cette décennie, aujourd'hui les astronautes y vont. Donc ce qui a été décidé, notamment à Lucerne, c'est de poursuivre son exploitation jusqu'à 2024, et la question c'est qu'est-ce qui va prendre le relais de la station, parce qu'on voit bien que 2024-2028, elle va arriver à la fin de sa durée de vie, d'une part, et d'autre part, comme vous l'avez dit, on a déjà fait beaucoup de choses à son bord, et donc on a envie de faire autre chose. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se dessiner au niveau mondial, c'est ce qu'on appelle l'exploration, et probablement à terme, l'exploration de Mars, c'est-à-dire la perspective d'une mission habitée vers Mars à l'horizon de la prochaine décennie. Mais il faut que l'Europe y ait toute sa place, parce que ça a des retombées politiques, bien sûr, mais technologiques, en matière d'innovation, programmatique, scientifique, considérable. Et donc, c'est pour cela que nous sommes à bord de la station. Et dans les années qui viennent, on voit bien qu'on a déjà commencé à discuter avec la NASA. Bon, là, il faut que la NASA se remette en place à la suite de l'arrivée d'un nouveau président, que les choses se remettent au carré. Mais je dirais que à compter du deuxième semestre, la suite de la station et donc cette perspective d'exploration lointaine va être sur la table. Et de mon point de vue, l'Europe doit y avoir toute sa place, parce qu'aujourd'hui, le fait que nous soyons le deuxième partenaire de la station, c'est quand même très très important en termes politiques, mais les retombées technologiques sont considérables. L'industrie spatiale européenne et française en particulier a fabriqué des tas d'équipements qui sont à bord de la station. Bon, le laboratoire Columbus qui lui a accroché, nous avons envoyé avec Ariane 5, 5 ATV qui ont permis la desserte de la station. Nous sommes associés à peu près à toutes les innovations qui sont à bord de la station, et donc il faut continuer.
Vous dites que ce qui compte concernant l'innovation, pour que les auditeurs se rendent bien compte, Ariane, c'est que finalement, la Station Spatiale Internationale permet notamment à de nombreuses PME de s'inclure dans des projets expérimentaux et d'avoir des retours d'innovation qui seraient impossibles. Sinon, c'est encore le cas, ça, Jean-Yves Le Gall ?
Mais bien sûr, Thomas Pesquet en particulier a mis en œuvre de nombreuses expériences qui ont été développées par le CADMOS, qui est le laboratoire spécialisé du CNES dans les expériences en microgravité à bord de la station et qui ont été développées par le CADMOS, mais qui s'appuient sur tout l'écosystème toulousain du spatial et, comme vous l'avez dit, avec des PME. Et des choses qui peuvent sembler anodines aujourd'hui.
Comme par exemple ?
Un protocole, par exemple, pour comprendre les mécanismes de l'ostéoporose. L'ostéoporose, bon, le problème est que ça touche tout le monde et malheureusement, ce n'est pas réversible. Quand vous êtes dans l'espace, c'est réversible, donc on comprend comment ça se passe. De la même façon, il a mis en évidence aussi l'utilisation de matériaux sur lesquels les bactéries ne peuvent pas accrocher. Donc, vous imaginez des gants, si ça marche, des gants faits dans ce matériau, vous plongez les mains dans une substance, un bouillon de culture, quel qu'il soit, vous ressortez les mains, il y a zéro bactérie sur vos gants. On imagine la quantité d'applications que ça peut avoir, médecine, vie quotidienne. Et donc, tout ceci se fait dans l'espace et, comme vous l'avez dit, grâce à un tissu de PME sur lequel on s'appuie.
Pour conclure sur l'ISS, donc on voit que la Chine est en train de monter sa propre station spatiale, hein, avec un entrain, on va dire, assez certain. Pour le moment, il n'y a pas de projet européen ou international de remplacement. Ce sera la future station spatiale, elle sera chinoise ?
Non, je crois que il y a deux absents aujourd'hui dans le projet de station qui sont la Chine et l'Inde, mais pour des raisons historiques. C'est parce que lorsque la station, le projet a été lancé à la fin des années 80, la Chine et l'Inde ne pesaient pas ce qu'elles pesaient sur la scène spatiale aujourd'hui. Donc nous avons des coopérations avec les Chinois, je vais d'ailleurs en Chine au début de la semaine prochaine. La France est le pays qui a le plus de coopérations avec la Chine, deux satellites, l'un pour l'observation du changement climatique, l'autre pour l'astronomie. Donc CFOSAT et SVOM, et on voit bien que il va falloir embarquer la Chine et l'Inde dans ces projets d'exploration. De mon point de vue, à bord du successeur de la station, alors maintenant, bon, bien sûr, il faut voir comment la politique va se passer aux États-Unis. Parfois, on entend ici ou là des propos peut-être un peu excessifs.
Mais le successeur de la station, ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle station spatiale internationale.
Une nouvelle station ou bien la mission vers Mars. Mais dans ce projet qui lui fera suite, je n'imagine pas qu'il n'y ait pas la Chine et l'Inde.
Parce que pour le moment, la Chine est en train de monter sa propre station.
Elle monte sa propre station, mais elle dialogue aussi avec nous. Peut-être un jour, enverra-t-on des astronautes non chinois à bord de la station chinoise. Et donc, tout ceci préfigure le fait que la Chine rejoigne le concert des nations sur la suite de la station.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Voilà, méthode scientifique en compagnie de Jean-Yves Le Gall, président du CNES, futur président du Conseil de l'Agence Spatiale Européenne, qui est notre invité tout au long de cette heure. On va parler de l'autre chantier central de l'aérospatiale européenne de ces prochaines années, c'est bien sûr le futur lanceur Ariane 6. Déjà en quelques mots, Jean-Yves Le Gall, la différence entre Ariane 5 et Ariane 6, les progrès sont minimes, majeurs, considérables?
Les progrès sont considérables dans la mesure où on change totalement le modèle industriel. Ariane 5 était un modèle qui était totalement éclaté, où il y avait de très nombreux industriels qui fabriquaient le lanceur. Il y avait de très nombreuses agences qui étaient des donneurs d'ordre. Et tout ceci, évidemment, n'allait pas vers une simplification de l'organisation, n'allait pas vers une réduction des coûts, n'allait pas vers une meilleure fiabilité. Donc on a commencé, il y a déjà quelques années, à rationaliser en quelque sorte tout ce qui était lié à la production du lanceur, puisque à l'époque on avait mis en place un prime contractor, comme on dit en mauvais français, c'est-à-dire un maître d'œuvre pour la production qui était l'ancêtre d'Airbus qui s'appelait EADS. Et c'est ceci qui a permis quand même d'avoir la fiabilité que nous avons aujourd'hui, puisque je rappelle qu'Ariane 5 quand même est le lanceur plus fiable du monde avec 78 succès d'affilée depuis 2003. On s'est rendu compte que au cours des dernières années, quand on a commencé à parler d'Ariane 6, si on voulait relever le défi que nous lancent les Américains avec leurs lanceurs pensés de façon totalement différente, il fallait encore améliorer cette organisation industrielle. C'est pour cela donc que le CNES a pris l'initiative de proposer à ses partenaires industriels et à l'Agence spatiale européenne de restructurer le secteur autour de trois acteurs clés. Donc l'Agence spatiale européenne, qui est l'agence, bien sûr, qui est sur la maîtrise d'ouvrage du projet Ariane 6. Le CNES, qui travaille avec l'Agence spatiale européenne avec des casquettes multiples, puisque c'est au CNES qui a la compétence technique pour développer les lanceurs. C'est le CNES qui finance à peu près la moitié du projet. C'est depuis le Centre spatial guyanais, qui est l'un des quatre centres du CNES, que sont lancées les fusées. C'est au Centre spatial guyanais que nous construisions en ce moment le pas de tir d'Ariane 6. Et puis le troisième acteur, ce sont les industriels. Nous avons dit aux industriels qu'il fallait absolument qu'ils se rassemblent, d'où la création d'Airbus Safran Lanceur, qui est devenu il y a quelques jours Ariane Group, ce qui montre d'ailleurs toute l'importance pour l'industrie d'être associée à Ariane. Et aujourd'hui, on voit qu'on a ces trois acteurs, ESA, CNES, Ariane Group, et ce qui, de mon point de vue, est la clé pour abaisser les coûts et donc relever ce défi. Donc Ariane 6, l'organisation de la fabrication va être totalement différente de ce qu'elle était pour Ariane 5, ça va permettre d'abaisser les coûts. Au niveau des solutions techniques, on est resté relativement conservatif parce qu'on avait besoin de ces lanceurs très vite, et donc il n'était pas possible de développer de nouveaux systèmes, parce que sinon on n'aurait pas été prêt à temps. Donc c'est pour cela qu'Ariane 6 reprend l'héritage d'Ariane 5.
Prêt à temps, juste pour dire, c'est le lancement est prévu.
On veut un premier 2020. Lancement au début de la prochaine décennie, donc 2020, parce qu'aujourd'hui, il faut voir que l'exploitation d'Ariane 5 quand même souffre de la concurrence des autres acteurs. Et donc c'est pour cela que ce chantier s'est mis en place. Alors aujourd'hui, si on peut aller quand même aussi vite que ce que nous allons sur Ariane 6, c'est parce que le CNES avait pris le taureau par les cornes dès le début, la fin des années 2000, 2007-2008, et avait lancé des développements, d'ailleurs qui avaient été largement aidés dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, avait lancé des développements qui font que pour Ariane 6, on peut en quelque sorte sauter les étapes. Et aujourd'hui, eh bien, nous préparons aussi l'avenir, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est, à mon avis, on ne peut pas parler de l'après-Ariane 6, ça serait présomptueux, mais penser, de regarder comment font les autres. Il y a différentes approches pour faire des lanceurs dans le monde. On en entend parler en Chine, au Japon, aux États-Unis, bien sûr. Et on veut toujours avoir une boîte à outils disponible et d'une certaine façon pour toujours avoir un coup d'avance. De sorte que si demain il faut vraiment décider de quelque chose de nouveau, eh bien le CNES puisse avoir toutes les technologies disponibles. Et en quelque sorte, c'est ce qui fait qu'on a pu décider rapidement Ariane 6. Eh bien il faut être prêt, s'il doit y avoir un coup d'après, pour un coup d'après. Mais aujourd'hui donc Ariane 6, si vous voulez, c'est à la fois l'héritage d'Ariane 5, et un mode d'organisation qui est totalement modernisé pour arriver à baisser les coûts.
Deux lanceurs, Ariane 6 2, Ariane 6 4, quelle différence technique, j'ai envie de dire, avec Ariane 5? On peut emporter plus, on peut emporter plus loin?
La différence est très simple, c'est que Ariane 5 n'est pas un lanceur modulable puisque c'est une seule version. Pour Ariane 6, on avait besoin de pouvoir moduler la performance, et donc c'est pour cela que on a proposé, le CNES a proposé lors de la définition de ce lanceur, de reprendre l'héritage d'Ariane 4, puisque Ariane 4, bon, ça remonte à quelques années déjà, mais enfin, on pouvait mettre deux ou quatre propulseurs d'appoint, et donc avec Ariane 6, c'est pareil. En jouant sur le nombre de propulseurs d'appoint, on peut moduler la performance.
Alors, il y a évidemment beaucoup de choses à dire, et notamment, vous l'avez évoqué, Jean-Yves Le Gall, en quelques mots, sur le contexte de développement ces dernières années du secteur privé. SpaceX et son Falcon 9, Blue Origin son New Glenn, avec des grandes avancées en termes de réduction des coûts, surtout quelque chose d'assez spectaculaire qui date d'il y a assez peu de temps, la réutilisation de modules de lancement. Vous maintenez, comme vous l'avez déclaré par le passé, que c'est une impasse, en tout cas que c'est pas du tout la direction dans laquelle ni le CNES ni l'ESA veulent se lancer.
Donc je crois que dire que c'est une impasse me semble un peu excessif. C'est une autre approche de faire du spatial, mais ce qui est peut-être frappant, si vous voulez, dans ce qu'on observe en ce moment, c'est la différence de communication. L'Europe a toujours eu une communication, alors d'aucuns disent modeste, mais qui est une communication qui est réaliste. Lorsque nous annonçons en début d'année que nous allons faire 12 lancements au Centre spatial guyanais, eh bien, nous avons des débats pour dire est-ce qu'on en annonce 11, 12, et l'annonce qui est faite en début d'année, en général, est tenue à la fin de l'année. Face à cela, nous avons des nouveaux venus outre-Atlantique qui, en début d'année, annoncent 40, 50 lancements et l'année se termine à 7 ou 8. Alors, évidemment, tout ceci est un peu, déstabilisant parce que on n'avait pas l'habitude dans ce secteur d'avoir des gens qui avaient des annonces aussi ébouriffantes, ainsi de suite. Aujourd'hui, sur le réutilisable, quelle est la situation ? Ils ont démontré qu'ils savaient récupérer des étages de fusée et ils en ont fait revoler un. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu encore la démonstration qu'en termes de business model, c'est-à-dire d'intérêt économique finalement, ceci est pertinent. Mais on va voir ce qui se passe dans les années qui viennent. Et c'est pour cela que, de notre côté, nous avons lancé des développements, notamment le moteur à bas coût Prometheus,
dont on va parler.
Et l'étage Callisto pour pouvoir toujours réagir au cas où on y en aurait besoin.
Parce qu'il y a plusieurs choses. Alors déjà sur les coûts, Falcon 9 annonce pour son module réutilisable un budget de 44 millions de dollars, là où pour Ariane 6 un lancement serait compris entre 90 et 100, c'est-à-dire qu'on est quasiment du simple au double.
Comme vous l'avez dit, pour l'instant, Falcon 9 annonce, et pour Ariane 6, quand on fait une annonce, c'est une annonce que nous tiendrons. Donc c'est ça la différence. Mais si d'aventure, il y avait vraiment cette évolution qu'on est en train de voir, à laquelle on est en train d'assister aux États-Unis, qui devient une révolution, eh bien à ce moment-là, grâce à la boîte à outils du futur que nous développons au CNES, on aurait les moyens de réagir.
On voit que la NASA a organisé des partenariats avec SpaceX, notamment, il utilise la capsule Dragon pour aller réapprovisionner l'ISS. Est-ce qu'il est envisageable que l'ESA trouve aussi des partenariats publics-privés avec ce type d'entreprise pour d'autres ou pour de futurs projets?
L'ESA, en fait, a déjà des partenariats publics-privés, et quand on dit que la NASA fait du privé, en fait, c'est un peu un faux-nez, parce que SpaceX est très 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 largement subventionné par les pouvoirs publics. La clé du succès de SpaceX, c'est le moteur Merlin, et il faut savoir que le moteur Merlin a été développé dans les années 90 par la NASA à coût de milliards de dollars, et ensuite SpaceX l'a pris sur étagère et l'a utilisé. Donc on fait la même chose en Europe. On le fait certainement de façon moins flamboyante parce que bon, on n'a pas l'équivalent de gens comme Elon Musk ou Jeff Bezos pour Blue Origin, mais nos résultats quand même, et c'est un euphémisme, ne sont pas si mauvais. Si vous voulez, on a fait quand même avec Ariane 5 une formidable machine à lancer, avec un héritage en termes de fiabilité qui est considérable. On a su s'organiser très très vite pour faire décider Ariane 6 et faire les bons choix, c'est-à-dire ce qui permettait quand même d'avoir une perspective. Et on continue en parallèle, si vous voulez, de préparer l'avenir. Donc nous sommes présents aujourd'hui, nous sommes présents demain et nous serons présents s'il le faut après-demain. Et ça, eh bien, quand vous regardez, finalement, il n'y a guère que l'Europe qui le sait le faire.
C'est-à-dire que vous encouragez des hommes d'affaires français, je ne sais pas, comme Xavier Niel ou Mathieu Pigas, à se lancer dans le spatial pour développer leur propre agence?
Ah ben, s'ils ont envie d'investir dans le spatial, ils sont plus que bienvenus. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que quand même, et bon, c'est vrai dans le spatial, c'est vrai dans nombre d'autres domaines, il y a quand même un écosystème aux États-Unis. Alors, qui est en train de changer parce qu'il y a quand même la French Tech qui a été développée, et il faut le reconnaître quand même très largement grâce à l'impulsion d'Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'économie. Il y a quand même un bouillonnement aujourd'hui de technologies, de start-up, de méthodes innovantes qui est en train d'arriver en France. Et je crois qu'en France, aujourd'hui, on fait quand même très largement la course en tête, bon, derrière les Américains. Mais quand vous regardez les autres pays du monde, eh bien, la France France est en train de devenir un peu le pays de l'innovation. J'étais encore jeudi dernier en Israël, puisqu'on va lancer au mois d'août le premier satellite franco-israélien pour l'observation du climat. On a beaucoup parlé d'innovation et je suis frappé de voir que les Israéliens, très souvent on présente comme les champions en matière d'innovation, eh bien sont quand même très admiratifs de ce qui est fait en France.
Vous évoquiez tout à l'heure deux projets intéressants dont on parle moins, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup et certainement en grande partie à cause de la communication effrénée qui est faite autour de ces tentatives de lancement, de récupération et de relancement de modules. Vous avez parlé du moteur à bas coût Prometheus et du module réutilisable Callisto. Vous pouvez nous en dire un mot?
Comme je vous l'ai dit, la clé du succès de SpaceX, c'est le moteur Merlin. Donc on est en train avec Prometheus de développer en Europe un moteur à bas coût réutilisable. Pour fixer les idées, le moteur Vulcan d'Ariane coûte 10 millions d'euros. L'objectif pour Prometheus, c'est de faire un moteur à moins d'un million d'euros et un moteur réutilisable. Donc là, il y a un chantier qui a été lancé par le CNES il y a 2 ans. Là aussi, c'est un détail, mais qui en dit long. Il y a 2 ans, personne ne croyait au réutilisable parce que les gens liaient ça d'un revers de la main. Et si vous voulez, on a un peu ferraillé pour imposer ce projet Prométhée il y a 2 ans. Mais aujourd'hui, tout le monde en Europe se félicite de l'avoir. D'ailleurs, il est devenu européen, il est devenu Prometheus. Et de la même façon, nous avons lancé un projet d'étage pour voir ce que ça veut dire un étage réutilisable qui s'appelle Callisto. Là aussi, les Américains avaient commencé avec des expériences il y a quelques années qui amusaient tout le monde. Eh bien, nous, là aussi, c'est notre réponse. Donc, comme je le dis, on prépare l'avenir.
Mais le CNES et l'ESA se mettent au réutilisable. Finalement, les Américains ont impulsé quelque chose de nouveau dans la conquête spatiale.
Mais je crois qu'il ne faut pas avoir de tabou, si vous voulez, où que ce soit, quand les gens... regardez l'exemple de la propulsion électrique. En 2013, les Américains ont fait une sorte de blitzkrieg sur les satellites commerciaux de télécommunications en imposant la propulsion électrique. On a eu une année blanche en 2013 en termes de prise de commande. Eh bien, le CNES a mis en place très très vite le programme de satellites à propulsion électrique avec, à l'époque, l'aide du PIA. C'était l'un des 34 projets de la Nouvelle France industrielle. En 2014, ça a redémarré. Les industriels ont réussi à reprendre des commandes. Et la première illustration, eh bien, on l'aura jeudi soir au CSEG, puisque nous allons lancer un satellite de Telsat, E172B, qui sera le premier satellite tout électrique européen. Ça montre que quand on anticipe les difficultés et qu'on met l'effort qui va bien, eh bien, les résultats sont là.
Ce que vous dites, c'est la capacité à réagir, à s'adapter rapidement et
la capacité, je le répète,
à se mettre au niveau de la concurrence.
Exactement, à inventer l'espace de demain, c'est-à-dire à regarder ce qui se fait. Et si vous voulez, vous pouvez avoir parfois des idées que personne d'autre n'ont eues, mais dans ce monde où quand même c'est un véritable bouillonnement aujourd'hui, eh bien, il faut avoir cette capacité d'abord d'analyser. Donc d'être à l'écoute de tout ce qui se fait dans le monde entier, ensuite de synthétiser, parce qu'il faut savoir séparer parfois le bon grain de l'ivraie, et puis in fine de proposer d'abord en France et puis ensuite au niveau européen.
Un dernier mot concernant les lanceurs, on sait que la NASA a développé et puis vient de mettre en orbite son premier module Orion, vide pour le moment, mais qui est un module qui a pour vocation d'être habité. SpaceX développe de son côté Falcon Heavy, qui devrait être un lanceur aussi pour module habité. Il a été long un temps, question d'un module Hermès pour Arianespace qui a été abandonné. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ESA et le CNES n'ont pas vocation à envoyer des êtres humains dans l'espace directement.
Hermès, on parle quand même d'une période très ancienne, puisque Hermès, c'était la fin des années 80, début des années 90. Depuis, beaucoup d'eau sont passées sous les ponts, beaucoup de lanceurs ont décollé. Aujourd'hui, l'Europe est présente dans Orion, puisque Orion, son module de service, c'est-à-dire Orion, c'est une capsule avec derrière un moteur, eh bien, tout le moteur, en fait, est fait par l'industrie européenne. C'est un dérivé de ce qu'il y avait sur l'ATV pour ravitailler la station spatiale. Donc l'Europe est présente dans Orion. Bon, sur le Dragon de SpaceX, nous n'y sommes pas, mais nous serons dans la suite de la station. Donc, si vous voulez, on ne fabrique peut-être pas l'endroit où s'installent les astronautes, mais on fabrique tout ce qui va autour, parce que ce sont des projets qui sont en coopération internationale.
I'm far away, I took a rocket trip to Mars. I flew away 'cause life on Earth was too harsh on me. When you were around, I found life moved along on the breeze. went away and the air turned thick and hard to breathe. I'm far away, I'm floating high above it all. I flew away, cause from up here all seems so small, so plain. I walked on the moon, but too soon I couldn't stand the view. I turned to the sun and the stars, but they all shine down on you. And I know that I fooled around, I was wrong, but I can't go back in time. And I know that you do the same, same rules for both parts of the game. Ah, we played with your cards, we broke our hearts. Ah, we played with your cards, we broke our hearts. I'm far away, I took a rocket trip to Mars.
Scientifique sur France Culture, Rocket Trip to Mars de Frédéric Astal. C'est le choix musical de notre réalisatrice Elisabeth Miro. Vous pouvez suivre, comme chaque jour, vous le savez, hein, cette émission sur le fil Twitter @laméthodefc, une émission que nous passons en compagnie de Jean-Yves Le Gall, président du CNES, futur président du conseil de l'ESA, puisque vous prendrez vos fonctions le 1er juillet prochain. Un mot d'ailleurs, puisqu'on l'a évoqué et vous en avez touché quelques mots tout à l'heure, Jean-Yves Le Gall, puisque le pouvoir vient de changer. Est-ce que vous êtes entré en contact avec le nouveau président de la République ? Est-ce que vous avez une idée de ses ambitions spatiales, s'il en a ? Quelles sont-elles ?
Vous savez, chaque fois qu'arrive une nouvelle équipe gouvernementale, bon, le CNES est une agence publique, bien sûr, nous avons un certain nombre de rendez-vous, donc il est peut-être un peu tôt pour voir quelles seront les grandes lignes, parce qu'il faut un peu de temps. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Emmanuel Macron est connu dans le monde de la technologie, dans le monde de l'Europe. C'est finalement un peu cette double signature qu'il faut reconnaître. Et moi, ce qui me frappe quand même, c'est que tous les étrangers, tous les contacts que nous avons, ont salué de façon totalement inhabituelle son élection, parce que ce qui les a frappés, c'est à la fois cette modernité. Donc tout le monde sait qu'il pousse la technologie, l'innovation, et ça c'est très très bien. Et puis aussi l'ouverture, bon, l'Europe bien sûr, l'axe franco-allemand qui est fondamental, et l'ouverture à l'international. Et j'avais été reçu de très très nombreux messages de questions avant l'élection, parce que bon, sans revenir en détail sur ce qui s'est passé, les gens avaient quand même des inquiétudes, et là son élection a été saluée. Donc pour l'avenir ensuite, bon, bien sûr, il faut que laisser au notre ministre, ainsi de suite, Frédéric Vidal, le temps
de l'innovation,
c'est très important. Donc, le temps d'instruire les dossiers, mais je dirais que les choses semblent se présenter sous les meilleurs auspices.
C'est plutôt encourageant quant au budget du CNES, notamment, puisque le budget du CNES est décidé par l'État.
Bien sûr, mais ça, on verra bien. Mais je crois que l'équipe gouvernementale qui est là a compris mieux que quiconque que les pays qui ont de la croissance dans le monde entier, tous, c'est parce qu'ils ont fait le pari de la technologie et de l'innovation. Tous les pays qu'on cite quand on dit « mais ces pays, ça se passe bien », que ce soit des géants comme les États-Unis accrochés à la Silicon Valley ou la route 128 à Boston, que ce soit des États plus modestes comme Singapour ou Israël, on voit bien que c'est l'innovation, la technologie qui est vraiment ce formidable moteur pour la croissance. Et le fait que la France se mette, je sais pas si on peut dire dans ce sillage, parce que dans ce sillage ça fait un peu suiviste, mais se mettre dans ce mood-là, c'est tout à fait intéressant et impressionnant.
On a entendu à l'occasion de la marche des sens de nombreux chercheurs rouspéter, on va dire, contre les budgets liés à la recherche qui ne sont qu'à 2,24% du PIB, alors que toutes les recommandations du traité de Lisbonne et de l'Europe sont à 3%. Vous avez le sentiment que ces revendications-là vont être portées, puisque ça concerne aussi la recherche fondamentale, ça concerne aussi l'espace, le CNES.
On verra la suite, mais mon sentiment, c'est que nous sommes aujourd'hui dans la meilleure configuration possible pour développer l'innovation, pour développer la technologie et surtout en étant ouvert au monde, ce qui est un peu la signature de la France et elle a été réaffirmée au plus haut niveau ces derniers jours.
Comment se décompose le budget du CNES rapidement pour qu'on ait une idée un peu de la répartition des différents
postes ? Le budget
postes
du CNES, vous pouvez le décomposer de deux façons, soit par programme, donc nous avons 5 domaines d'intervention qui sont les lanceurs, la science, l'observation, télécommunications et la défense. Et donc, les lanceurs sont en tête avec derrière science, observation et puis après télécommunications, défense. Voilà. Donc ça, c'est la décomposition par métier. Ensuite, par affectation, on a un budget d'à peu près 2,3 milliards. Donc, sur les 2,3 milliards, vous avez quelque chose comme 800 millions qui vont à l'Agence spatiale européenne. Donc, nous sommes le premier contributeur et on est à peu près au même niveau que l'Allemagne. L'Allemagne est un peu derrière nous, mais ça montre que, comme le PIB allemand est quand même plus supérieur au PIB français, plus d'habitants en Allemagne, ça montre que l'effort per capita est quand même supérieur en France que ce qui est fait en Allemagne. Une moitié à peu près équivalente, une autre partie à peu près équivalente, 800 millions aussi, qui va sur le programme multinational, c'est-à-dire tout ce que nous faisons en coopération internationale et avec là un double intérêt. D'abord, une stratégie de niche. Le rover Curiosity de la NASA qui est sur Mars, c'est 2,5 milliards de dollars. Nous n'avons ni les moyens ni la techno de le faire. Mais ce rover, les deux instruments fondamentaux qu'il y a à son bord sont des instruments français qui ont été faits à Toulouse avec l'université Paul Sabatier, donc au CNES à Toulouse avec l'université Paul Sabatier. Et j'ai au CNES à Toulouse des gens qui toutes les nuits tirent au laser sur Mars, font des trous à la surface de Mars pour comprendre la composition du sol martien, voir s'il y a des traces de vie, des choses comme ça. De la même façon, ce qu'on fait avec les Chinois, on monte des instruments très sophistiqués sur des satellites chinois. On fait la même chose avec les Indiens, avec les Japonais, ainsi de suite. Donc, il y a cette stratégie de niche qui est très importante. Et puis, le deuxième intérêt, c'est la diplomatie économique. Quand vous faites de la coopération scientifique, de la coopération comme fait le CNES avec l'Inde, avec la Chine, avec les États-Unis, eh bien, ça crée un climat favorable aux affaires et ensuite on peut vendre des satellites français à ces pays-là. Les satellites de ces pays sont lancés depuis le centre spatial guyanais par la gamme des lanceurs européens. Donc il y a vraiment un effet win-win, si j'ose dire. Et donc ça, c'est la deuxième partie du budget du CNES. Et puis la troisième partie, c'est ce que nous faisons pour le compte d'autrui, c'est-à-dire on a des contrats du ministère de la Défense, de l'Agence Spatiale Européenne, de MEDSAT, parce qu'il y a des compétences au CNES qui sont uniques et dont les autres veulent se servir. Mais un aspect là aussi sur lequel il faut insister, dont je crois on peut s'enorgueillir, c'est depuis quelques années, le CNES est devenu l'agence spatiale du monde entier qui a le plus de coopération internationale et les gens ont envie de travailler avec nous. Pourquoi ? Parce que, on a parlé d'innovation, on a parlé de ce qu'on fait dans le climat, la COP21, eh bien, le CNES a compris qu'il y avait une carte à jouer. Ce sont les satellites qui ont mis en évidence le réchauffement climatique. Ce sont les satellites du CNES qui ont mis en évidence le fait que le niveau des océans monte. C'est très très faible, c'est 3,2 mm par an. Et nous allons fêter le 10 août en Californie le 25e anniversaire du lancement de Topex Poséidon, qui est le premier satellite d'océanographie qui a montré la montée du niveau des océans. Et ça, je l'ai expliqué aux politiques au moment de la COP21, parce que spontanément, ils imaginaient qu'il y avait des espèces de sondes un peu partout dans le monde, dans les océans, un peu comme le zouave du pont de l'Alma, pour voir si le niveau des océans montait. Mais le zouave du pont de l'Alma, ça marche à Paris quand vous avez une crue de plusieurs mètres.
Et encore, c'est pas très précis.
C'est pas très précis, mais vous voyez bien que si le malheureux a de l'eau jusqu'au nombril, eh bien, la Seine est plus haute que s'il a de l'eau seulement jusqu'au genou. Mais pour voir 3,2 mm par an, seuls les satellites avec des metteurs d'interférométriques peuvent le faire. Donc ça, c'est le climat. Le deuxième aspect, les gens ont été frappés par notre démarche sur le climat. Puis le troisième aspect, l'exploration. Ce qui fait qu'il y a vraiment une envie de coopérer avec le CNES. Et le plus bel exemple, eh bien, c'est il y a quelques semaines, les Japonais nous ont approchés pour aller avec eux sur Phobos. Donc Phobos, c'est l'une des lunes de Mars qui tourne à 6000 km d'altitude. Et on va poser en 2024 un petit atterrisseur à la surface de Phobos. On va prélever un petit morceau, pas grand-chose, 10 grammes, et on va le ramener sur la Terre. Et les instruments principaux de la mission MMX, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, l'acronyme de Martian Moon Explorer... Eh bien, les instruments principaux sont des instruments qui vont être fournis par les scientifiques français, par le CNES.
Eh bien, puisque nous parlons de Mars, la transition est toute trouvée avec la mission qui est l'une des principales missions que nous évoquions au début de cette émission, ExoMars 2020, avec qui est un projet de l'ESA en partenariat notamment avec l'agence russe Roscosmos, et avec, eh bien, malheureusement le constater, cet échec de l'atterrisseur Schiaparelli, qui n'a pas réussi, qui s'est écrasé à la surface. On sait maintenant exactement pourquoi, on l'a évoqué il y a peu de temps dans cette émission dans le Journal des Sciences. Quels enseignements de cet échec, et est-ce que ça remet en question un peu la deuxième partie de la mission qui doit partir, donc, comme son nom l'indique, en 2020?
Non, d'abord sur Mars 96, Schiaparelli n'est pas un échec, parce que Schiaparelli, son objectif, c'était d'envoyer des données sur la descente d'un corps vers Mars. Et donc Schiaparelli, jusqu'à 2 km d'altitude, a parfaitement fonctionné. Il a envoyé tout un tas de données. À 2 km d'altitude, il avait envoyé à peu près 95% des données qu'il était supposé envoyer. Là, il a connu une difficulté, et se poser sur Mars est très difficile parce que l'atmosphère martienne est très différente de l'atmosphère terrestre. 7 millibars de pression, là où vous avez 1000 millibars sur la Terre,
donc
atmosphère très ténue, atmosphère avec des vents très élevés, 150-200 km/h, donc on a du mal à voir ce que c'est, et atmosphère, parce que quand vous combinez le côté ténu et la vitesse des vents, vous avez une atmosphère qui est hétérogène, c'est-à-dire il y a des sortes de grumeaux dans cette atmosphère, il y a des zones de surpression, des zones de basse pression, et quand vous avez une capsule qui rentre dans cette atmosphère, et bien sur la Terre c'est à peu près homogène, donc Thomas Pesquet, quand il va rentrer vendredi après-midi, et bien c'est homogène, et donc là on suit une parabole. Quand vous êtes dans une atmosphère où vous avez des grumeaux, parfois vous avez des perturbations très très fortes, et c'est ce qui a troublé Schiaparelli, puisqu'à 2 km d'altitude manifestement il a connu une sorte de gros trou d'air où la sonde s'est mise à balloter dans tous les sens, et à ce moment-là elle a perdu l'altitude. Mais quand même, les données qu'il a envoyées sont très très importantes. Et ce que nous allons faire en 2020, c'est envoyer ExoMars qui, lui, si tout va bien, se posera sur Mars. Et là, pourquoi va-t-on sur Mars ? Parce qu'on a démontré que Mars a été habitable en 2003 grâce à Mars Express que nous avions lancé depuis le Kazakhstan. La question, c'est de savoir si Mars a été habité. Et Mars, aujourd'hui, l'atmosphère...
Quand on dit habité, c'est certainement par des formes de vie micro-organiques.
Je ne sais pas.
On n'en sait rien.
On ne sait pas. Mais on veut aller voir s'il y a des vestiges. Et donc, aujourd'hui, comme il n'y a pas d'atmosphère, le vent solaire stérilise Mars à la surface, parce que vous avez un bombardement du vent solaire en permanence. Ce qui fait qu'il faut aller gratter dans le sol de Mars pour voir si on ne peut pas trouver des formes de vie passées, des bactéries, des choses comme ça. Donc, c'est pour cela que toutes les missions martiennes vont dans des endroits où c'est facile de gratter, c'est-à-dire dans des soies où il y a des sables, des argiles, des choses comme ça. Et ExoMars, donc, va se poser posée sur un sol argileux. Et là, grâce à un système à bord d'exomas, on va faire un forage jusqu'à 2 mètres de profondeur pour aller retirer une carotte. Et ensuite, on va l'analyser. Et il est très facile, finalement, aujourd'hui, avec des laboratoires spatiaux, de savoir si on voit des traces de vie ou pas, parce que ça laisse des signatures en termes de chimie du carbone, de choses comme ça. Et donc, c'est ça la mission d'ExoMars. Et je peux vous dire que déjà, si ça marche, ça sera remarquable. Mais si en plus d'aventure, ça trouve des traces de vie passée, là, ça sera carrément extraordinaire.
Mais donc cet accident de l'atterrisseur Schiaparelli, ça ne remet rien en cause, ça n'a pas remis en cause le financement, la mission continue comme non. Si...
La mission continue, ça fait partie, je dirais, des risques du métier. Alors, on a beaucoup parlé de Schiaparelli, qui était une mission secondaire. Je préférerais qu'on parle beaucoup plus de TGO, qui est l'orbiteur qu'on a mis en orbite autour de masque. TGO, c'est Traces Gas Orbiter, c'est-à-dire pour chercher des traces de gaz dans la haute atmosphère martienne, et qui, lui, marche parfaitement. C'est quand même pas si fréquent. Quand vous regardez quand même les pays qui ont envoyé des missions martiennes, bon, il y a les États-Unis qui ont à la fois des satellites en orbite et qui ont posé des atterrisseurs, même si ça s'est pas toujours bien passé, parce que c'est difficile, je le répète. L'Europe a été le deuxième pays, après des échecs de la Russie, des échecs de la Chine, donc on a lancé Mars Express en 2003. On n'en a pas beaucoup parlé à l'époque, mais quand même Mars Express a mis en évidence la présence d'eau sur les calottes, des calottes glaciaires
Mars
sur
les pôles de Mars. Mars Express qui est un orbiteur.
L'Europe
n'a jamais réussi à poser un atterrisseur sur Mars.
On n'a jamais réussi parce qu'on n'a jamais essayé. Et on va le faire. Donc il y a eu Schiaparelli et puis là il va y avoir ExoMars. Les Indiens ont envoyé Mangalyaan il y a quelques années, qui est une sonde low cost, puisque lorsque le premier ministre indien est venu en France, il a tenu à visiter le CNES. Je lui ai fait visiter le CNES à Toulouse, et il m'a dit, pour montrer à quel point Mangalyaan est low cost, que le budget total avait été de 60 millions de dollars, c'est-à-dire inférieur au budget du film Gravity, pour montrer que c'est pas cher. Bon, pour ce prix-là, vous n'avez ni George Clooney ni Sandra Bullock, mais vous avez des images de Mars. Et donc, il y a seulement États-Unis, Europe, Inde. En 2018, nous retournons sur Mars avec la NASA, c'est InSight, et donc là, on va écouter battre le cœur de Mars, parce que pour savoir pourquoi l'atmosphère est partie, il est important de savoir si le noyau de Mars est liquide ou solide, et donc InSight, nous allons poser un sismomètre qui est fabriqué en ce moment à Toulouse, et qui va écouter les battements du cœur de Mars, et puis en 2020, alors là, c'est l'apothéose, parce qu'il y a 5 missions qui partent vers Mars, puisqu'on peut y aller tous les 2 ans. Donc, les États-Unis, Mars 2020, le successeur de Curiosity. Et là aussi, la France, le CNES, fournit la caméra Supercam, qui va faire des choses extraordinaires. ExoMars, dont on a parlé. Les Chinois vont essayer de nouveau d'aller sur Mars, on va voir s'ils réussissent. Les Indiens remettent le couvert, si j'ose dire, avec Mangalyaan 2. Et puis, plus inattendu, les Émirats, qui envoient une sonde qui s'appelle Hope. Et alors là, l'objectif est clairement politique. C'est parce que le 2 décembre 2021 sera commémoré le 50e anniversaire de la formation de l'indépendance des Émirats Arabes Unis, et il a été décidé au plus haut niveau que cet anniversaire, eh bien, les festivités, avec notamment ce qu'on appelle la mer des feux d'artifice qui sera tirée à ce moment-là, les festivités seront déclenchées par un tweet lancé par la sonde Hope en orbite de Mars. Ce qui montre à quel point le spatial, c'est important, et Mars, c'est politique.
Et c'est de la géopolitique, évidemment. Alors, il nous reste quelques minutes et j'aimerais qu'on dise un mot rapidement. Est-ce que l'ESA et le CNES ont vocation à s'associer aux missions pour les futurs vols habités vers Mars ou pas ?
Bah, l'ESA et le CNES y sont déjà, parce que l'ESA donc est l'un des 5 partenaires actuels de la station spatiale, et les futurs vols habités, c'est la suite de la station, donc de la station, c'est Journey to Mars, avec probablement la Chine et l'Inde, mais l'ESA sera dedans. Et puis le CNES a une double expérience, à la fois l'expérience des vols habités, donc on le voit en ce moment avec Thomas à bord de la station, l'expérience de Mars, et d'ailleurs j'ai signé au mois de décembre avec la NASA un protocole pour que justement le CNES soit l'un des premiers acteurs à joindre ce projet d'exploration planétaire. Donc nous y serons.
On sait que l'autre horizon qui en ce moment excite beaucoup toute la communauté astrophysique, ce sont les lunes glacées de Jupiter et Saturne. Est-ce qu'il y a des projets dans ce sens-là ? On imagine qu'il y a donc des océans sous la croûte de glace et potentiellement de la vie.
Bien sûr, donc ça c'est la suite. Donc c'est la mission JUICE de la NASA.
Pour JUICE, Ice Moon Explorer.
explorer, donc il va aller explorer les lunes de Jupiter. Il y a le projet Europe du JPL de la NASA aux États-Unis, à bord duquel j'espère que nous pourrons être. Alors là, c'est peut-être encore plus ambitieux. Europe, on a mis en évidence qu'il y a une sorte de croûte de glace qui fait à peu près entre 50 et 100 mètres d'épaisseur, et dessous il y a un océan probablement qui reste liquide du fait de la géothermie. Et donc l'idée, tenons-nous bien, est d'envoyer un sous-marin dans cet océan. Donc on va poser un atterrisseur sur Europe. Sur cet atterrisseur, il y a une sorte de sphère qui va chauffer. Donc par gravité, comme elle sera chaude, elle va passer à travers la couche de glace en vidant derrière elle une petite fibre optique. Et ensuite, elle va aller se balader dans cet océan.
Et l'ESA et le CNES sont associés à ces missions-là ?
Le CNES a une tradition de coopération avec le JPL. Donc bon, c'est encore à long terme, mais je pense qu'on y sera d'une façon ou d'une autre. Ça sera probablement la mission qui fera le plus rêver la prochaine décennie, un peu comme Rosetta nous a tenu en haleine. Rosetta, ça semble naturel, mais si vous voulez, j'étais à Darmstadt le 6 août 2014 quand la sonde est arrivée à proximité du noyau de la comète. Donc jusqu'alors, le noyau de la comète, c'était un point lumineux. Puis on a commencé à se rapprocher, et là, d'un seul coup, on a vu ce noyau que maintenant tout le monde connaît avec deux lobes en quelque sorte. On a vu les deux lobes et donc tout le monde pensait qu'il y avait un problème sur l'instrument optique qui voyait double et que la lentille était détraquée, une sorte de dipoplie si vous voulez. Et puis il a fallu s'en rendre à l'évidence, là où on imaginait trouver une boule de neige sale, parce qu'on avait toujours dit que les noyaux de comètes c'était des boules de neige sale, on a trouvé cette forme en espèce de cacahuète déformée que le monde entier a vue. Mais on a vraiment découvert un monde nouveau, et c'est probablement la première fois qu'on va sur un monde dont on n'a pas eu de photos auparavant. Quand on est allé sur la Lune, on s'est posé sur la Lune, mais on savait ce qu'on allait trouver. Même quand on est allé sur Titan avec la sonde Huygens, on avait eu des photos, des télescopes. Là, la comète était tellement petite que on ne savait absolument pas ce qu'on allait trouver, et on a trouvé donc ce noyau avec cette forme extraordinaire. Et si on va sur Europe, bon, aujourd'hui on a observé à de multiples reprises
ou sur Ganymède,
peu importe, on a observé des choses en passant sur surface, mais il est clair que si on perce la banquise d'Europe et qu'on va dans cet océan, eh bien là on peut trouver des choses inimaginables aujourd'hui, mais c'est tout l'intérêt de ce métier.
Il nous reste quelques secondes à peine avant de conclure cette émission. Jean-Yves Le Gall, une question simple pour conclure. Vous n'avez jamais rêvé de voler, vous, de partir dans l'espace ?
Vous savez, c'est des questions oui et non, parce que après il y a des problèmes d'opportunité. Bon, d'abord, il faut voir que vous prenez un échantillon de 1000 personnes, on n'est pas sûr du tout, pour des critères physiques et autres, de pouvoir y aller. Donc, de ce point de vue-là, on l'oublie aussi, mais Thomas Pesquet, les astronautes sont quand même avant tout des athlètes, parce que il faut quand même avoir une remarquable condition physique. Bon, et puis, ça fait des choses, là, tout le monde peut le faire, mais
est-ce que vous auriez aimé aller partir dans la station spatiale internationale?
Oui, bien sûr, comme tout le monde. Mais si vous voulez regarder les autres le faire quand on ne peut pas le faire, c'est pas mal aussi. Et puis avoir des robots qui explorent le monde entier et puis piloter ce genre de programme, c'est tout aussi excitant. C'est un autre métier, mais bon, c'est un métier aussi qui a son intérêt.
Et Thomas Pesquet qui revient donc vendredi sur Terre, quand vous allez le voir, la première chose que vous allez lui dire?
Ben c'est bienvenu et bravo, parce que là aussi c'est banalisé, mais si vous voulez, un vol spatial, c'est toujours un vol spatial. Hein. Moi, vendredi après-midi, bon, je serai content quand le parachute se sera ouvert et quand Thomas sera à bon port. Et puis bravo, parce que il a fait une mission absolument extraordinaire, avec les aspects scientifiques et techniques, et puis surtout la façon dont il en a parlé.
Eh bien écoutez, on profite de votre présence ici pour lui lancer officiellement une invitation. On serait ravi qu'il soit le parrain de la méthode scientifique pour la rentrée prochaine. Voilà, donc l'invitation est lancée, quand vous le verrez. J'espère que je lui transmettrai. Merci infiniment Jean-Yves Le Gall d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je rappelle que vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster, sur le site de franceculture.fr, sur la page de la méthode scientifique. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Céline Lozède, Mathieu Lefrançois, Elisabeth Miro à la réalisation, Célia Dufour à la technique. Et demain, nous parlerons d'un enjeu stratégique industriel majeur pour notre futur proche et pour le développement des énergies renouvelables, mais aussi, qui sait, pour les vols spatiaux, il s'agit du stockage énergétique de demain. Dans un instant, on reste un peu dans l'espace, encore une fois, avec la série documentaire qui est consacrée aux philosophes emprisonnés, puisqu'il sera question, dans quelques secondes, de Galilée et de Giordano Bruno, qui ont apporté leur contribution à la connaissance de l'espace. C'est une série signée Élise Gruau, Angélique Thibault et Perrine Kervan. On se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.